Pourquoi le vent ne vient-il pas simplement tout droit du pôle Nord vers chez nous s'il fait plus froid là-bas? On sent bien qu'il y a des forces complexes à l'œuvre qui façonnent notre météo tous les jours. C'est pas juste l'air chaud monte, l'air froid descend, quoi.
Aujourd'hui, justement, on s'attaque à cette grande question. On va explorer un peu les moteurs invisibles de la circulation de l'air sur notre planète. Notre sujet, donc, la circulation atmosphérique générale et le rôle absolument crucial de la rotation de la Terre, via ce qu'on appelle la force de Coriolis. Et pour décrypter tout ça, on va s'appuyer sur des éléments, des explications assez claires de ces concepts météo fondamentaux.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de comprendre comment l'énergie solaire, qui est notre source de chaleur principale, et puis ce mouvement incessant de la planète sur elle-même, comment ces deux éléments conspirent, si on peut dire, pour organiser les grands courants d'air, ceux qui définissent nos climats, qui influencent les tempêtes comme les petites drises. C'est un peu comme si on soulevait le capot de la Terre pour voir comment sa climatisation globale fonctionne. Et c'est essentiel pour comprendre notre environnement, bien sûr.
D'accord. Alors, allons-y, soulevons ce capot. Si je saisis bien le point de départ, tout commence avec le Soleil, avec son énergie. Mais la Terre, comme c'est une sphère, elle ne reçoit pas cette énergie de façon égale partout. L'équateur est frappé plus directement, il reçoit beaucoup plus de chaleur que les pôles. C'est ça la première pièce du puzzle ?
C'est exactement ça. Ce différentiel d'énergie, c'est le moteur initial, le point de départ absolu. Et cette inégalité de chauffage a une conséquence immédiate et massive. L'air au-dessus de l'équateur et des tropiques, il est fortement chauffé, donc il se dilate, il devient plus léger, moins dense, et il monte. C'est ce qu'on appelle l'ascendance. Et à l'inverse, au pôle, l'air est glacial, donc beaucoup plus dense, plus lourd. Il a tendance à s'affaisser, à redescendre vers le sol. Ça, c'est la subsidence. Ce contraste thermique, eh bien, il crée une différence de pression et ça met toute l'atmosphère en mouvement. Un peu comme de l'eau qui chauffe dans une casserole, hein. Elle se met à circuler.
Pensez que l'air chaud en altitude, hop, il va filer vers les pôles. Pendant que l'air froid au sol revient vers l'équateur pour le remplacer. C'est ça, hein?
Ça forme des sortes de boucles géantes, comme d'immenses tapis roulants d'air. C'est une image très parlante, oui. Ces boucles de circulation, elles existent bel et bien. On les appelle des cellules de convection. Et à l'échelle de la planète, elles sont effectivement gigantesques. Les sources qu'on a consultées en décrivent trois principales dans chaque hémisphère. Elles s'emboîtent un peu comme des engrenages. La plus connue, la plus puissante aussi, c'est la cellule de Hadley. Elle concerne les tropiques. L'air chaud et humide monte près de l'équateur. C'est là qu'on trouve la zone de convergence intertropicale, souvent marquée par des nuages, de fortes pluies, le fameux poteau noir que les navigateurs connaissent bien. Cet air, une fois qu'il est en altitude, il se dirige vers les pôles. Mais en chemin, il se refroidit, il s'assèche. Et quand il arrive vers 30 degrés de latitude, nord et sud, eh bien cet air, maintenant plus froid, plus dense, il est forcé de redescendre vers la surface.
Ah ouais. Et cette descente d'air, qui est maintenant sec, si je comprends bien, à 30 degrés de latitude, ça doit avoir des conséquences visibles au sol, j'imagine.
Tout à fait. Ces zones de subsidence, donc de descente d'air, elles correspondent aux grandes ceintures de déserts de la planète. Le Sahara, le Kalahari, les déserts australiens, tout ça, c'est lié. L'air qui descend se comprime, il se réchauffe en descendant, et ça empêche la formation de nuages et de pluies. Une fois au sol, cet air sec retourne vers l'équateur, et c'est ça qui forme les alizés, ces vents très réguliers qui soufflent depuis les tropiques vers l'équateur. Et voilà, la boucle de Hadley est bouclée.
D'accord. Pour la cellule de Hadley, c'est clair. Et les deux autres, alors ?
La cellule de Ferrel et la cellule polaire. Comment elles s'insèrent là-dedans ? Alors, aux latitudes moyennes, disons entre 30 et 60 degrés environ, on trouve la cellule de Ferrel. Elle est un peu particulière, parce qu'elle n'est pas directement motorisée par la chaleur, comme celle de Hadley. Elle fonctionne plutôt comme un engrenage, en fait, entraîné par les deux autres cellules qui l'encadrent. Hadley au sud ou au nord, selon l'hémisphère, et polaire au nord ou au sud. L'air près du sol y remonte globalement vers les pôles, tandis que l'air en altitude redescend vers les tropiques. C'est la zone où on se trouve, en grande partie, en Europe, en Amérique du Nord. Et cette nature un peu indirecte de la cellule de Ferrel, ajoutée au fort contraste de température entre l'air polaire et l'air tropical, ça explique en partie pourquoi notre météo, à nous, aux latitudes moyennes, est si variable. Avec ce passage incessant de dépression, d'anticyclone, c'est vraiment la zone de bataille entre l'air froid et l'air chaud.
Ah, c'est la zone des fameux fronts dont on entend toujours parler dans les bulletins météo, en somme. Le front polaire.
Exactement, le front polaire, il se situe typiquement dans cette région. Et enfin, au-delà de 60 degrés, on a la cellule polaire. Là, c'est plus simple, disons. L'air très froid descend sur le pôle, hein, c'est la subsidence polaire. Il s'écoule ensuite vers des latitudes plus basses, près du sol, puis finit par remonter vers 60 degrés de latitude. C'est là où il rencontre l'air plus doux qui remonte de la cellule de Ferrel. Et ces trois cellules, Adler, Ferrel et Polaire, elles fonctionnent ensemble pour assurer le transport de la chaleur excédentaire des tropiques vers les pôles qui, eux, sont déficitaires. Elles tentent de rééquilibrer un peu les températures sur la planète.
Ok, le tableau se précise. On a un moteur solaire qui chauffe inégalement. Ça crée des mouvements verticaux. Ça monte à l'équateur, ça descend au pôle et vers 30 degrés. Et ces mouvements s'organisent en trois grandes boucles ou cellules dans chaque hémisphère. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi les vents ne vont pas tout droit. Si l'air au sol dans la cellule de Hadley retourne vers l'équateur depuis 30 degrés de latitude, pourquoi les alizés ne soufflent pas plein sud dans l'hémisphère nord, par exemple? Ils soufflent plutôt du nord-est. Qu'est-ce qui les fait tourner comme ça?
C'est là qu'intervient la rotation de la Terre, j'imagine. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Vous mettez le doigt sur le point crucial. C'est précisément là que la rotation de la Terre entre en scène. Et elle vient compliquer magnifiquement les choses via ce qu'on appelle la force de Coriolis. Sans elle, oui, les vents iraient beaucoup plus en ligne droite, nord-sud. Mais la Terre tourne. Et cette rotation, elle a un effet sur tout ce qui bouge à sa surface sur de longues distances, que ce soit l'air ou même l'eau des océans.
La force de Coriolis, on en entend souvent parler, c'est vrai, mais ça reste parfois un peu abstrait. Comment ça marche concrètement ?
Ce n'est pas une force comme la gravité, si. On la sent pas nous pousser. C'est une excellente remarque. Non, ce n'est pas une force au sens physique classique, comme une poussée ou une traction qu'on pourrait mesurer directement. C'est ce qu'on appelle une force inertielle, ou parfois une force apparente. Elle n'existe que parce que nous, les observateurs, on est sur un système en rotation, la Terre. Pour bien le saisir, imaginez que vous êtes sur un manège qui tourne. Vous êtes dessus, il tourne. Vous essayez de lancer une balle tout droit vers une personne qui est en face de vous sur le même manège. Pour vous, sur le manège en rotation, la balle va sembler dévier de sa trajectoire. Elle va partir sur le côté. Pourtant, si quelqu'un regardait la scène de l'extérieur, sans tourner, il verrait la balle aller bien en ligne droite. Mais c'est vous et la cible qui avez tourné sous la balle. Eh bien, la force de Coriolis, c'est exactement ça. Cet effet de déviation apparent dû à la rotation de notre référentiel, la Terre. Ce qui est fascinant ici, c'est son omniprésence. Dès qu'il y a mouvement à grande échelle.
D'accord. L'analogie du manège est très parlante. La balle va droit, mais comme le sol tourne sous elle, sa trajectoire par rapport au sol semble courbe. Et cet effet, il est le même partout sur Terre? Ou ça dépend d'où on met?
Sur l'axe de rotation, au centre, les pôles, l'effet de pivotement est maximal. Sur l'équateur, vous êtes sur le bord extérieur du manège. La surface ne pivote pas sous vos pieds de la même manière par rapport à un mouvement nord-sud. C'est d'ailleurs pour ça que les ouragans, les typhons, qui ont besoin de cette force de Coriolis pour commencer à tourner, eh bien, ils ne peuvent pas se former sur l'équateur. Ils naissent toujours un peu plus loin, à quelques degrés de latitude. Et l'autre facteur important, c'est la vitesse de l'objet en mouvement. Plus un vent souffle vite, plus la déviation de Coriolis sera importante.
D'accord. Nul à l'équateur, max au pôle et dépend de la vitesse. Et l'effet concret de cette déviation, ça fait tourner les choses, mais toujours dans le même sens?
Dans un hémisphère donné, oui. C'est systématique. Dans l'hémisphère nord, la force de Coriolis dévie toujours tout mouvement vers sa droite. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Toujours vers sa gauche. C'est une règle fondamentale. Donc, pour revenir à nos alizés, cet air qui redescend à 30 degrés nord et qui veut retourner vers l'équateur, son mouvement initial est donc vers le sud, eh bien il est dévié vers sa droite par Coriolis. Et un mouvement vers le sud dévié vers la droite, ça donne un vent venant du nord-est. Voilà nos alizés boréaux. De la même manière, l'air qui remonte de 30 degrés nord vers 60 degrés nord, donc qui va vers le nord, est aussi dévié vers sa droite, ce qui donne les vents dominants d'ouest qu'on connaît bien aux latitudes moyennes.
Ah, voilà. C'est donc ça qui explique pourquoi on a des vents d'ouest dominants en Europe, par exemple. Et ça explique aussi pourquoi, sur les cartes météo, les dépressions et les anticyclones, ça tourne. C'est lié, hein ?
Absolument. C'est une conséquence directe et très visible. Dans l'hémisphère nord, l'air qui veut aller vers une zone de basse pression, une dépression, est attiré vers le centre. Mais en chemin, il est dévié vers sa droite par Coriolis. Résultat, il ne plonge pas directement au centre, mais il se met à tourner autour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour un anticyclone, une zone de haute pression, l'air qui s'en échappe est aussi dévié vers sa droite, ce qui crée une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Et bien sûr, tout ça est inversé dans l'hémisphère sud. C'est vraiment la signature de Coriolis à l'échelle des systèmes météo. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, on entend parfois dire que Coriolis fait tourner l'eau dans les lavabos dans un sens différent selon l'hémisphère. Bon, ça c'est un mythe. L'effet Coriolis est beaucoup trop faible à cette petite échelle et pour ces vitesses-là. Le sens de rotation dépend surtout de la forme de la vasque et du jet d'eau initial.
Mythe déconstruit, c'est noté. Très bien. Mais revenons à la grande échelle, à nos cellules de circulation. Pour bien saisir l'importance de cette force, que se passerait-il si la Terre ne tournait pas, s'il n'y avait pas de Coriolis? Nos sources évoquent ce scénario, je crois. Alors, que se passerait-il sans cette force?
C'est un exercice de pensée très utile, oui. Si la Terre ne tournait pas, ou si on pouvait étendre la force de Coriolis, la circulation atmosphérique serait radicalement différente, beaucoup plus simple. On aurait sans doute une seule immense cellule de convection par hémisphère. L'air monterait à l'équateur, il filerait tout droit vers le pôle en haute altitude, il y descendrait massivement, puis il reviendrait au sol directement vers l'équateur. On aurait des vents de nord constants et probablement très forts dans l'hémisphère nord et des vents de sud dans l'hémisphère sud. Un climat beaucoup plus zonal, très marqué par la latitude. Et probablement des contrastes de température encore plus extrêmes entre l'équateur et les pôles, car ce transport de chaleur en une seule boucle serait peut-être moins efficace que le système actuel à trois cellules.
Donc, c'est bien la force de Coriolis qui vient casser cette unique cellule géante un peu idéalisée, et qui la fragmente en trois cellules plus petites, Hadley, Ferrel et Polaire dans chaque hémisphère. C'est ça son rôle fondamental.
C'est exactement ça. En empêchant l'air de voyager en ligne droite sur de longues distances nord-sud, en le forçant systématiquement à dévier, elle contraint la circulation à s'organiser différemment. Elle crée ses ondulations, ses méandres et ses cellules imbriquées qu'on observe. La structure à trois cellules est vraiment une conséquence directe de l'équilibre entre deux choses, le moteur thermique, la différence de chaleur équateur-pôle, et l'effet de la rotation terrestre Coriolis. Coriolis est donc absolument essentiel pour comprendre pourquoi nous avons des alizés qui soufflent de l'est, des vents dominants d'ouest ou latitude moyenne, et finalement toute la complexité des climats et de la météo que nous connaissons.
C'est fascinant de voir comment ça s'agence. Alors si on résume, pour être sûr d'avoir bien tout saisi, le soleil chauffe plus l'équateur. Ça crée un mouvement de basé, l'air chaud monte, l'air froid descend. Cet air essaye d'aller des pôles vers l'équateur au sol et l'inverse en altitude. Mouvement simple. Mais, comme la Terre tourne, la force de Coriolis vient mettre son grain de sel. Elle dévie ses grands courants d'air. Vers la droite au nord, vers la gauche au sud. Ce qui empêche ce trajet direct nord-sud ou sud-nord et force la circulation à s'organiser en trois cellules distinctes. Hadley, Ferrel, Polaire. Dans chaque hémisphère. C'est bien ça l'idée générale ?
C'est une excellente synthèse. Oui, c'est exactement ça. Le moteur thermique donne l'impulsion et la rotation donne la forme. Et cette mécanique combinée, eh bien, elle a des implications absolument partout. Si on élargit un peu la perspective maintenant, ces cellules et les vents dominants qu'elles génèrent, les alizés, les vents d'ouest, c'est la toile de fond sur laquelle tout le reste de la météo et du climat se joue. C'est ça qui détermine où se trouvent les grands déserts et où se trouvent les grandes forêts tropicales humides. C'est ça qui guide les trajectoires des tempêtes, des dépressions qui nous affectent. Et ça pilote aussi en grande partie les grands courants océaniques de surface qui, eux aussi, redistribuent la chaleur autour du globe. Historiquement, d'ailleurs, la maîtrise de ces vents, notamment les alizés, a été la clé des grandes explorations maritimes, du commerce à la voile pendant des siècles. Et aujourd'hui encore, l'aviation commerciale planifie ses routes pour profiter des courants jets, ces vents très forts en altitude, liés justement à ces contrastes thermiques et à Coriolis, ou pour éviter les vents contraires. Donc comprendre cette machinerie globale, ça reste absolument fondamental si nous relions cela à une vision plus large.
On voit bien le lien, oui. Comment ces deux éléments, l'énergie solaire inégale et la rotation de la planète, sculptent en permanence notre environnement à grande échelle. Le moteur thermique lance le mouvement et la rotation de la Terre, via Coriolis, lui donne sa forme complexe, ses directions parfois. contre-intuitive au premier abord. Une sorte de grande danse cosmique dont on ressent les effets chaque jour avec la météo.
Tout à fait. Une danse complexe et essentielle. Et cette compréhension, elle nous amène naturellement à une réflexion qui dépasse un peu le cadre strict de nos sources initiales, mais qui est cruciale aujourd'hui. Cela soulève une question importante. Que se passe-t-il si on modifie l'un des paramètres de cette grande machine? Par exemple, avec le changement climatique actuel, on observe que les pôles se réchauffent beaucoup plus vite que l'équateur. Ça veut dire que le contraste thermique entre l'équateur et les pôles diminue. Le moteur initial dont on parlait, il est en train de changer. Alors, la question c'est, comment cela pourrait-il affecter la force ou même la position de ces grandes cellules de circulation comme Hadley ou Ferrel?
Ah oui! C'est une question vertigineuse, en effet. Si le moteur faiblit ou change de régime, toute la mécanique pourrait être perturbée.
C'est une préoccupation majeure des climatologues, oui. Certains modèles et certaines observations suggèrent déjà des modifications en cours. Par exemple, on parle d'un possible élargissement de la cellule de Hadley vers les pôles, ce qui pourrait entraîner une expansion des zones subtropicales sèches, arides, vers des latitudes plus élevées. Ça pourrait affecter des régions comme le bassin méditerranéen, par exemple. Un affaiblissement du contraste thermique nord-sud pourrait aussi modifier la force ou la trajectoire des courants jets aux latitudes moyennes. Et ça aurait un impact direct sur la trajectoire et l'intensité des dépressions qui nous apportent la pluie et le vent en Europe. Est-ce que les alizés pourraient faiblir? Est-ce que les zones de mousson pourraient se déplacer? Comprendre comment toute cette machinerie atmosphérique complexe réagit à nos propres perturbations, notamment via les gaz à effet de serre, ça devient essentiel pour anticiper l'évolution future de nos climats régionaux et des événements météorologiques extrêmes. La grande danse de l'atmosphère n'est pas immuable et il semble bien qu'on soit en train d'en changer subtilement mais sûrement la chorégraphie. Voilà peut-être une pensée sur laquelle on peut rester après notre exploration d'aujourd'hui.